Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce mardi 28 septembre. Pour vous accompagner, Bertrand Tungandamé et Jean-Noël Ducasse. Après l'actualité et le journal des sports de Jean-Noël Ducasse, nous allons avoir pour vous, comme tous les mardis, le décryptage de l'actualité française de la semaine. Nous parlerons également du lancement de l'Océanarium de Maurice, une première dans cette partie de l'océan Indien. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce mardi. Au sommaire, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 7 décès dus au coronavirus et envisage de nouvelles restrictions dans certaines localités. De son côté, le Victoria a enregistré plus de 850 nouvelles infections au coronavirus et 4 décès. Et en France, Emmanuel Macron a présidé à l'installation du Centre mondial de formation de l'Organisation mondiale de la santé. La Nouvelle-Galles du Sud a recensé 863 nouveaux cas de coronavirus au cours de la dernière journée et 7 personnes sont décédées du COVID-19. Le département de santé de la Nouvelle-Galles du Sud a révélé que 2 personnes parmi les derniers cas avaient été infectées à l'hôpital. L'État déplore à ce jour un total de 316 morts de COVID-19. Le ministre de la Santé, Brad Hazard, a également annoncé que les restrictions sanitaires prendront fin dans les localités de Byron et de Tweed à minuit comme prévu.
Thankfully, we've had no further cases of concern. And so the public health team have advised that they can come out of lockdown.
Toujours en Nouvelle-Galles du Sud, l'État surveille le risque de COVID-19 à Port Macquarie, Kempsey et Muswellbrook et prévient qu'il pourrait imposer de nouvelles restrictions dans ces régions. Et de son côté, le Victoria a enregistré 867 nouveaux cas de COVID-19 et 4 décès. Le gouvernement du Victoria souligne que quelques cas n'ont pas été comptabilisés à cause d'une erreur qu'il impute à une mise à jour d'un logiciel. Les cas enregistrés marquent un nouveau record depuis le début de la pandémie et 140 cas ont été ajoutés au décompte du lundi, tandis que 9 autres cas ont été ajoutés au total du dimanche. Le ministre de la Santé, Martin Foley, a expliqué que les cas supplémentaires résulte des tests positifs qui n'avaient pas été communiqués au système principal du ministère de la Santé.
That software problem has been rectified by our partners in the pathology contracting area, and this fortunately did not have an impact on either the people concerned getting their test results, particularly the positive cases.
Entre-temps, le gouvernement du Victoria invite les personnes isolées à la maison à participer au nouveau système d'enregistrement dans le cadre d'un programme de quarantaine à domicile en essai. Et le Queensland a enregistré 4 nouveaux cas de coronavirus acquis localement, dont un travailleur de l'aviation entièrement vacciné. Les autres contaminés sont le partenaire du travailleur de l'aviation, un conducteur de poids lourd ainsi qu'une troisième personne qui a été testée positive après avoir effectué la quarantaine dans un hôtel. La première du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a indiqué que le port du masque à l'intérieur à Brisbane et dans la région de Moreton Bay sera obligatoire à titre de précaution.
Until we get to that, 80% fully vaccinated, these masks are indeed our best line of defence. So please, Queensland, please make sure that you are continuing to use these masks, especially in the Brisbane and Moreton Bay regions.
Et la police du Queensland mène actuellement une enquête sur un homme d'une cinquantaine d'années décédé alors qu'il était en quarantaine dans un hôtel. Et les habitants de Canberra pourront jouir d'une levée de certaines restrictions sanitaires. Le verrouillage devrait lui prendre fin à la mi-octobre. Certaines restrictions, comme je viens de le souligner, seront levées à partir de la fin de cette semaine. Les habitants de l'ACT pourront recevoir jusqu'à 2 visiteurs à domicile à partir de ce 1er octobre et jusqu'à 9 personnes à partir du 15 octobre. L'ACT espère atteindre son objectif de 80% de sa population âgée de 12 ans et plus vaccinée le mois prochain. La première de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que la quarantaine dans les hôtels a dépassé sa date limite. Et au même moment, Gladys Berejiklian encourage l'isolement à domicile des Australiens entièrement vaccinés de retour de l'étranger. Les plafonds des passagers internationaux devraient être levés au mois de décembre prochain. Et c'est à ce moment que la Nouvelle-Galles du Sud lancera un essai de quarantaine à domicile. S'adressant à la chaîne ABC, la première de Nouvelle-Galles du Sud a dit que ce ne serait pas australien de maintenir la fermeture des frontières entre les États et territoires du pays tout en autorisant les voyages internationaux.
Consider compassion grounds for reuniting families, both from overseas and also within Australia. It's been 2 years since people have seen each other, been with each other. It's a long time.
Et le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a annoncé que des tests de coronavirus à domicile seront disponibles à partir du 1er novembre prochain. Les tests à domicile sont déjà disponibles, mais ne peuvent être utilisés que sous la supervision directe d'un professionnel de santé qualifié. Mais M. Hunt a souligné que d'autres autorisations sont nécessaires pour garantir aux utilisateurs des procédures sûres et efficaces.
One of the critical parts of the national plan is to make sure that people will be able to go about their daily activities safely. And so I'm delighted that the TGA has now recommended that home testing will be available from the 1st of November, obviously subject to individual tests being approved as being safe and effective. But this is an important additional protection for Australians. Home testing to support Australians and to support the national plan.
Et au moment où des voix s'élèvent pour une meilleure distribution des vaccins à travers le monde, le président Joe Biden a défendu la distribution des doses de rappel pour lutter contre le COVID-19. Les organisations humanitaires ont multiplié ces derniers temps des demandes auprès des leaders mondiaux de soutenir le déploiement des vaccins dans les pays les plus pauvres avant d'offrir une troisième dose à leur propre population. Mais le président Biden, qui a reçu sa dose de rappel, a souligné que les USA aident les autres pays et veillent à ce que tout le monde soit protégé contre le COVID-19.
But let me be clear. Boosters are important. But the most important thing we need to do is get more people vaccinated. The vast majority of Americans are doing the right thing.
Et des hommes armés ont tué au moins 34 personnes dans deux villages dans l'état de Kaduna au nord du Nigeria. Selon les autorités gouvernementales, lorsque les forces de sécurité se sont rendues sur place, elles ont été la cible de tirs à l'arme à feu. Après un échange de tirs nourris, les assaillants ont été expulsés. Des témoins locaux affirment que ces hommes avaient envahi le village aux alentours de 1h du matin en brandissant des armes à feu et des machettes. Deux suspects en relation avec cette attaque ont été arrêtés. Et en France, Emmanuel Macron a présidé hier à Lyon à la cérémonie d'installation du Centre mondial de formation de l'Organisation mondiale de la santé. Ce nouvel établissement répondra aux normes les plus avancées en matière d'éco-responsabilité. L'épidémiologiste François Dabis, coordinateur scientifique de l'Académie de santé de l'OMS, nous explique que les contours de l'Institut étaient dessinés depuis plusieurs années, mais la crise mondiale liée au COVID-19 lui a donné soudain un sens nouveau. François Dabis souligne par ailleurs que lorsqu'il sera opérationnel, l'Institut va former chaque année des dizaines de milliers de professionnels de santé venus du monde entier.
Et justement, on est en train de poser la première pierre et donc de dévoiler le projet aujourd'hui. Mais très clairement, dans le futur, sous l'égide des ministères de la Santé de la plupart des pays du monde, des programmes d'accès, et ce ne sera pas que pour des médecins, seront rendus disponibles en présentiel à Lyon, mais aussi bien sûr en utilisant le plus possible les nouvelles technologies et les technologies numériques pour que l'accès à une information uniformisée, de qualité, la médecine par l'épreuve, hein, comme l'on dit, on le dit maintenant, soit accessible au plus grand nombre. On a vu avec la crise du Covid que beaucoup de fausses informations circulaient. L'idée, c'est de faire revenir la science dans l'information en matière de santé.
C'était François Davbis, épidémiologiste et coordinateur scientifique de l'Académie de santé de l'OMS, au micro de RFI. Et le président français, toujours en France, a été frappé par un œuf alors qu'il visitait le Salon international de la restauration. Lancé par un étudiant de 19 ans, le projectile a rebondi sur l'épaule du président de la République sans se casser. L'auteur a été placé en garde à vue. Selon le parquet, il est totalement inconnu des services de police et de justice. Et deux jours après les élections législatives en Allemagne, l'incertitude demeure toujours sur celui qui succédera à la chancelière Angela Merkel. Comme le souligne Pascal Thibault des RFI, la courte victoire des sociaux-démocrates sur les conservateurs de la CDU a donné le coup d'envoi à une lutte farouche pour le pouvoir. Et malgré sa défaite historique, la CDU prétend également être en mesure de diriger un gouvernement.
Olaf Scholz veut former un gouvernement avec les deux partis qui ont, comme le SPD, gagné des points aux élections, des partis que l'actuel vice-chancelier a qualifiés de force du changement. Les sociaux-démocrates arrivés en tête, les Verts et les libéraux ont ensemble enregistré une progression de 12% par rapport aux élections de 2017. 6 Allemands sur 10 souhaitent qu'Olaf Scholz devienne chancelier.
Quand trois partis symboles de progrès au début de cette décennie s'associent pour gouverner, c'est positif, même s'ils sont différents.
Le chrétien-démocrate Armin Laschet veut lui aussi tenter de constituer une coalition avec les Verts et les libéraux.
Les électeurs qui nous ont soutenus veulent aussi que nous prenions nos responsabilités pour gouverner le pays.
Mais les deux tiers des Allemands souhaitent la démission d'Armin Laschet. La pression dans le parti du candidat chrétien-démocrate pourrait augmenter. Pour que les conséquences d'une défaite historique, un recul de 9 points par rapport à 2017, soient tirées. De nombreux éditorialistes s'étonnent de l'assurance du leader chrétien-démocrate et se demandent même s'il a réalisé ce qui est arrivé à son parti dimanche.
Un vote d'urgence à la conférence du Parti travailliste britannique prévient que le pacte AUKUS, conclu entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, est dangereux et pourrait remettre en question la paix dans le monde. Le vote de rejet du pacte AUKUS a recueilli 70% de voix favorables contre 29 parmi les délégués réunis en conférence à Brighton. Le leader du Parti travailliste, Keir Starmer, s'était pourtant félicité du renforcement de la coopération entre la Grande-Bretagne, l'Australie et les États-Unis lorsque la conclusion de ce pacte avait été rendue publique. Et un coup d'œil météo à travers la grande ville du pays. Perth 23 degrés, Adélaïde 22, Melbourne 23, Hobart 17, Canberra 20, Wollongong 23 degrés, Sydney 23, Newcastle 24, Brisbane 21, Cairns 30 et Darwin 33 degrés. Et à présent, un rappel des titres de l'actualité de ce mardi. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 7 décès du Covid-19 et envisage des nouvelles restrictions dans certaines localités. De son côté, le Victoria a enregistré plus de 850 nouvelles infections au coronavirus et 4 décès. Et en France, Emmanuel Macron a présidé à l'installation du Centre mondial de formation de l'OMS.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Quelques années déjà, je suis content de marquer ma carrière par des belles victoires. Je suis content d'avoir marqué l'histoire de mon sport, mais là, une victoire comme ça, ici en plus en Belgique sur une terre de vélo, gagner de cette manière, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Donc j'ai juste envie de savourer, réaliser d'abord, et je pense être un peu plus tranquille l'année prochaine, mais ce ne sera pas encore pour maintenant.
Voilà, c'était Julian Alaphilippe, le Français champion de la course masculine sur route qui s'est déroulée dimanche en Belgique et il a réalisé le doublé donc au championnat du monde. Et maintenant le reportage de Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale qui était sur place en Belgique.
L'arc-en-ciel lui colle à la peau. Ce maillot conquis l'an dernier dans le huis clos d'Imola, Julian Alaphilippe l'a défendu en attaquant sur les terres de ses rivaux. Il reste 17 km. Quand le Français se dresse sur ses pédales, fend une foule de Flandriens éméchés pour finir seul sur la ligne, roi des Belges, roi du monde.
C'est vrai que l'année dernière, c'était un moment inoubliable, mais il manquait un peu de spectateurs pour l'ambiance. Aujourd'hui, on a été servi. Il y a eu un public incroyable et ouais, sur le podium, c'était juste magique. C'était juste magique.
Magique et historique. À 29 ans, Julian Alaphilippe devient le premier Français double champion du monde. Un moment d'émotion très fort pour le sélectionneur des Bleus, Thomas Vauclair.
Quel champion on a. Il faut vraiment que tous les gens qui aiment le sport, le vélo en France, soient conscients que ces moments-là, il faut les apprécier, quoi. On ne va pas gagner chaque année, hein. Mais l'an dernier, j'ai dit ça aussi. Donc ouais, savourons.
Savourons avant d'évoquer peut-être un triplé l'an prochain en Australie. Mais pour l'heure, le programme de Julian Alaphilippe est beaucoup plus simple.
Que la douleur s'arrête et que je peux savourer. Je pense à mon petit garçon et même s'il comprend rien, j'ai gagné pour lui parce que j'ai tellement hâte de le retrouver là. J'ai des beaux souvenirs à lui raconter.
Des souvenirs d'une légende que Julian Alaphilippe n'a sans doute pas fini d'écrire.
On passe au foot en France. Le week-end dernier, la Ligue 1, avec la défaite de Marseille dimanche par Lens, 3-2. On écoute la réaction du Marseillais Dimitri Payet.
On a eu des hauts et beaucoup de basses. Et ils ont su en profiter. Ils ont été plus réguliers que nous sur ce match-là. Je pense que voilà, il faudra revoir ce qu'on a mal fait. Forcément déçu. Au vu de la physionomie du match, je sais pas si on a mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter ce match. On perd. Et je pense que voilà, on est tombé aussi face à une équipe qui en voulait plus que nous ce soir. La défaite me semble logique.
Lens est désormais deuxième derrière le Paris Saint-Germain et devant Marseille qui est passé à la troisième place. En Angleterre, troisième victoire de Arsenal qui a battu Tottenham 3-1 dans le derby londonien dimanche. Et dans l'autre match, Wolves a battu Southampton 1-0. En Espagne, le FC Barcelone a gagné dimanche, comme l'expliquent Pierre Chaperon et Christophe Diremzian pour RFI.
Oui, on ressort de ce match avec un peu plus de sourire côté supporters Blaugrana. Plus de jeux cet après-midi et des petits jeunes qui commencent à se montrer. Je pense à Nico, 19 ans, Gavi, 17 ans, tous les deux milieu de terrain et formés à la Masia. Et le retour après plus de 300 jours d'absence de l'attaquant international espagnol d'origine bissau-guinéenne, Ansu Fati, entré à la 81e, il a mis 10 minutes pour ouvrir son compteur. Frappe rat-terre, décochée en dehors de la surface. Auteur du troisième but barcelonais, il est allé remercier le médecin du club et sa famille, lui qui porte désormais le fameux numéro 10.
Alors, est-ce qu'on peut dire que Ronald Koeman est sauvé ?
Non. La semaine décisive, c'est celle qui commence là. Le Benfica mercredi en Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid samedi en Liga. La victoire le sauve pour le moment, écrit d'ailleurs ce soir le quotidien catalan Sport. Deux questions quand même. Est-ce que financièrement le Barça peut virer Coman ? Y a-t-il réellement des candidats pour le remplacer ? La rumeur parle de Xavi, l'ancien du club, ou Roberto Martinez, le sélectionneur belge. Ça sent quand même mauvais pour Coman.
Donc semaine décisive pour le Barça.
En Italie, Naples, premier au classement, a battu Cagliari 2-0. Rugby, le Rugby Championship est à la fin de la sixième journée le week-end dernier. La Nouvelle-Zélande a conservé son titre de championne aux dépens de l'Afrique du Sud. Score 19-17. C'était le centième match entre les deux équipes. Le match qui se déroulait à Townsville, au Queensland. Et dans l'autre match, l'Argentine s'est inclinée face à aux Wallabies, 27-8. Ce match se déroulait également au North Queensland Stadium à Townsville. Et puis un mot de la NRL en Australie avec la grande finale le week-end prochain entre Penrith et South Sydney. Afro basket féminin et les Nigériennes remportent leur troisième succès en battant les Maliennes 70-59. Les Nigériennes avaient gagné en 2017 et 2019. Reportage Martin Guez, RFI.
Le triplé pour les Lady Tigers, féroce, à nouveau en finale de l'Afrobasket disputée à Yaoundé. Après avoir triomphé du Sénégal en 2017 et en 2019, le Nigeria est venu à bout du Mali 70-59. Pour les coéquipières Désine et Kalou, meilleure marqueuse de la rencontre avec 13 points. Cinquième titre de l'histoire du Nigeria chez les femmes, le troisième de suite, alors que les Maliennes restent bloquées à une couronne décrochée en 2007. Une grosse déception pour l'ailière Assetou Traoré. Elle et son équipe ont couru après le score durant toute la rencontre.
Ça fait mal de perdre une finale, mais ça a été une expérience pour nous. On reste toujours concentré sur les prochains matchs à venir, Inch'Allah. Et on pense qu'on peut faire beaucoup plus meilleur que ça.
Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui?
Bon, aujourd'hui, je peux dire qu'on a raté beaucoup de paniers et défensivement, on n'arrivait pas à arrêter l'adversaire comme il le fallait. Elles étaient plus fortes parce qu'elles étaient plus appliquées que nous. Elles marquaient leurs paniers et nous, on ratait les nôtres.
Assetou Traoré avec Joël Wadem, les jeunes maliennes qu'on retrouvera lors de la prochaine Coupe du Monde de basket en septembre 2022 en Australie.
On passe au tennis avec le tournoi de Metz qui a été remporté par le Polonais Urkaz contre l'Espagnol Karino Busta. À Ostrava, la finale des dames a été remportée par Kontaveit, l'Estonienne, contre Sakari, la Grecque. Et puis un mot pour vous dire que Kim Clijsters, la Belge, fait un comeback à l'âge de 38 ans sur le circuit WTA. Elle avait gagné son premier grand chelem il y a 20 ans. Formule 1, le Grand Prix de Sochi en Russie, qui a été remporté par le Britannique Lewis Hamilton devant Max Verstappen, le Néerlandais. Et Lewis Hamilton passe du coup en tête du classement des pilotes devant Verstappen par seulement 2 points. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Et bien comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes avec Émile Matasseau. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour, Jean-Noël. Bonjour à tous.
À la une, les Républicains qui renoncent à organiser une primaire en vue de la présidentielle.
Oui, pas de primaire ouverte pour la droite, pour les Républicains. Il n'y aura pas de débat télévisé entre les candidats potentiels, les adhérents du parti se sont exprimés ce week-end sur le mode de désignation. Ils ont été sollicités par les cadres du parti, les Républicains, quant à savoir s'il fallait ou pas organiser cette primaire ouverte où tous les sympathisants de droite auraient pu voter. Verdict de la consultation, eh bien les quelques 80 000 adhérents à jour de cotisation ont choisi à 58% que la désignation du candidat se ferait lors d'un congrès du parti le 4 décembre. Ce jour-là, seules les personnes encartées chez les Républicains, les 80 000 adhérents, auront le droit de se prononcer. Il n'y aura pas eu auparavant de confrontation directe, ces fameux débats qui font le sel d'une primaire. Les Républicains qui changent donc la règle, celle qui était écrite dans leur statut et qui en 2016 nous avait offert pour désigner le candidat de la droite et du centre pour la présidentielle de 2017, cette primaire explosive qui avait tenu en haleine les Français pendant des semaines et des semaines, 7 candidats sur la ligne de départ dont les poids lourds Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, les anciens premiers ministres Alain Juppé et François Fillon, une primaire à 2 tours qui s'était terminée au final avec Alain Juppé et François Fillon. Cette primaire avait rencontré un incroyable succès. Près de 4 500 000 personnes avaient pris part au vote. Mais on connaît la suite. L'heureux élu, François Fillon, n'avait pas su convertir la dynamique. Quelques mois plus tard, arrivé seulement en troisième position du premier tour de l'élection présidentielle, devancé par Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les Républicains ne veulent pas reproduire cette guerre des chefs stérile. On en revient donc à une formule plus classique où seuls les adhérents choisiront leur candidat le 4 décembre.
Quels sont les candidats potentiels pour représenter les Républicains ?
Bien, ils sont au moins quatre. Philippe Juvin, maire de Garenne-Colombes, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, Michel Barnier, ancien commissaire européen, et Valérie Pécresse, ancienne ministre et présidente de la région Île-de-France, même si dans les faits, Valérie Pécresse a quitté le parti. C'est elle qui a les faveurs des sondages pour l'instant à droite, quand on se projette sur la présidentielle d'avril prochain, et elle avait accepté au départ l'idée d'une primaire comme les trois autres candidats précédemment cités. Plus précisément, elle partage, Valérie Pécresse, cette position avec Xavier Bertrand, président, lui, de la région des Hauts-de-France, la région du nord de la France. Cette position dans les sondages, ils sont tous les deux à peu près au même niveau, que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Mais c'est là que les choses se compliquent pour la droite. Xavier Bertrand, qui lui aussi a été ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2012 et 2017, il a annoncé depuis avril dernier qu'il serait candidat, quoi qu'il arrive, à la présidentielle, et ce, quelle que soit la formule, qu'il ne se soumettrait pas au jeu d'une primaire de la droite. Mais comme Valérie Pécresse, eh bien, il plafonne dans les sondages entre 10-15% au mieux. La droite ne peut pas se permettre d'avoir deux candidats, une Valérie Pécresse par exemple qui serait adoubée le 4 décembre par les Républicains et à Xavier Bertrand qui lui ferait cavalier seul. Le scénario est suicidaire, en tout cas dans cette configuration, ni l'une ni l'autre ne semble en mesure de se qualifier pour le second tour de la présidentielle, sachant que depuis des mois Emmanuel Macron, le chef de l'État, et Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National, sont loin devant dans les intentions de vote. Les Républicains ont encore deux mois pour trouver leur candidat d'ici ce fameux congrès. Le fait de renoncer à une primaire ouverte, eh bien, pourrait faire revenir dans le giron du parti Xavier Bertrand. Son entourage se félicitait ce week-end du choix des adhérents. Il ne serait donc pas étonnant de le voir arriver avant le congrès et tout se déciderait donc ce week-end-là. Qui se désistera pour qui si ça n'a pas été fait au préalable? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, le 4 décembre, les Républicains régleront la chose en interne, conscient que le temps presse, qu'il est grand temps que les Français puissent identifier clairement celui ou celle qui représentera l'ex-RPR, l'ex-UMP, les Républicains, parti historique de la droite, parti de Jacques Chirac, parti de Nicolas Sarkozy.
La course à la présidentielle, on en parle aussi à gauche et chez les Verts.
Bien, du côté des écologistes, c'est ce mardi que le ou la candidate sera connu. Europe Écologie des Verts organise une primaire, c'est d'ailleurs le seul parti à le faire pour cette présidentielle de 2022. À l'issue du premier tour sont arrivés, on en parlait la semaine dernière, sont arrivés en tête Yannick Jadot, l'eurodéputé, et Sandrine Rousseau, économiste, universitaire. Les militants votent en ligne depuis trois jours pour le second tour de cette primaire des écolos. Ils étaient plus de 110 000 à s'être prononcés au premier tour. Là, ils ont jusqu'à mardi pour cliquer, pour choisir, avec deux profils très différents. Un côté très radical pour Sandrine Rousseau, qui se définit comme une écoféministe. Elle est prête à faire des choix environnementaux très forts. Là où Yannick Jadot, ancien directeur de Greenpeace, est plus dans le compromis. L'issue du vote, en tout cas, est incertaine pour cette primaire des Verts. Ce qui est sûr, c'est que les Verts pourront se targuer d'avoir un candidat qui a passé toutes les étapes d'une primaire et ils espèrent s'en servir comme tremplin pour convaincre ensuite au-delà de leur seule famille politique. À gauche, l'actualité des derniers jours, elle nous a mis en scène l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg. Il était samedi à Frangy en Bresse, en Saône-et-Loire, pour la fête de la Rose. Il est candidat, il l'a annoncé à la présidentielle. Il s'est adressé à la foule et au peuple de France. 2022 est le moment de la réparation, a lancé Arnaud Montebourg, le moment de laver l'affront fait aux classes populaires. Ancien ministre de l'économie et du redressement productif de 2012 à 2014, sous la présidence de François Hollande, il croit en son étoile, Arnaud Montebourg. Il veut revenir au premier plan et il a martelé ce week-end, ses thèmes préférés, la réindustrialisation de la France. Mais il reste maintenant à décoller dans les sondages. La problématique est la même pour tous les candidats, quels qu'ils soient. Car pour l'instant, la candidature d'Arnaud Montebourg, elle ne dépasse pas 5% d'intention de vote. Même problématique pour Anne Hidalgo, la candidate qui, elle, va être avalisée par le Parti Socialiste. Sa candidature ne décolle pas à Anne Hidalgo dans les sondages. Problème, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, ils disent à peu près la même chose. Et ils ont la même ambition, rassembler la gauche. On retrouve là la même problématique qu'avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Ils sont deux pour une seule place dans l'absolu. Pendant ce temps, et on terminera par cela, Jean-Luc Mélenchon, leader lui de la France insoumise, candidat de l'extrême-gauche pour la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'est offert un débat télévisé de joutes verbales avec le polémiste d'extrême-droite, Éric Zemmour, qui n'est pas officiellement candidat, Éric Zemmour, mais qui est en campagne et qui dépasse, lui, les 10% d'intention de vote dans certains sondages. Immigration, République, environnement, islam. Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon, place de la femme dans la société, 2 heures de débat et l'assurance de faire le buzz. Les deux hommes ont quitté le plateau avec le sourire.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Pause musicale maintenant en compagnie de Florent Pagny qui nous interprète L'Avenir. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
C'est un faisceau d'espérance.
Aujourd'hui, est-ce qu'on sait la réaction du groupe Naval ? On n'en a pas tellement entendu parler, on sait qu'ils vont chercher une compensation. Est-ce qu'en fait, à la limite, est-ce que le chiffre est même important de savoir combien le Naval Group va recevoir ? Autant, il est difficile sûrement d'évaluer le déficit d'image que ça peut avoir par rapport à l'industrie française en général et l'industrie française militaire également.
Alors, il y a plusieurs, comme à chaque fois avec vos excellentes questions, Christophe, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, ce qu'on a vu du point de vue de la France, c'est qu'il y avait une volonté quand même, encore une fois, mais parce que ce n'est pas qu'un contrat, mais un partenariat stratégique, de l'idée, c'est pas un mot, un joli mot, mais de préempter voilà la communication d'abord du point de vue des ambassades, d'abord du point de vue des intérêts nationaux. Et c'est pour ça qu'on a eu la semaine dernière très rapidement des sorties à la fois du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassadeur ici sur les principales chaînes australiennes, sur ABC et avec votre confrère d'SBS, une interview exclusive avec l'ambassadeur. Donc d'abord, c'est le premier élément, c'est que avant de parler de choses et de certains détails contractuels, la France a voulu tout de suite préempter une séquence de communication sur des intérêts stratégiques et bien plus importants. Et puis, en parallèle de ça, et ça, c'est vrai que c'est une remarque intéressante, c'est que pour l'instant, on a, deux versions, en fait, de cette histoire. On a soit la version très, soft diplomatie, soft skills, soft story, c'est-à-dire on a la version de tout... des problèmes interculturels, des problèmes entre différences d'adaptation, des personnels australiens, français, les Australiens pas contents à Cherbourg, les Français qui travaillent pas comme les Australiens voudraient travailler. Donc, mais finalement, encore une fois, pour moi, ça reste du détail. Et à l'autre, de l'autre côté du spectre, Christophe, on a cette version officielle des ambassades, très géopolitique. Et il nous manque, comme vous l'avez mentionné, il nous manque en fait la version industrielle. Il nous manque le feedback. Le narratif de Naval sur vraiment ce qui s'est passé dans les négociations de ce contrat-là dans un domaine où, encore une fois, il y a beaucoup de fantasmes, qui est celui des sous-marins, de la défense. Pour l'instant, j'ai l'impression, Christophe, mais je ne vais pas parler en leur nom, que c'est un choix qui est délibéré du côté français de pour laisser un peu en retrait d'abord ce côté très industriel et de mettre les projecteurs sur ces questions, voilà, de trahison entre alliés, très géostratégique, très géopolitique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Christophe, et ça, ça a été dit aussi par l'ambassadeur, c'est que, évidemment, ça va pas arrêter, ça ne va pas mettre un coup d'arrêt aux collaborations entre entreprises françaises et entreprises australiennes dans d'autres domaines, dans les domaines de l'infrastructure, du transport, etc. Et puis, un des meilleurs exemples, alors est-ce que c'est hasard du calendrier ou est-ce que c'est signal donné pour un petit peu apaiser la situation, c'est ce contrat avec Alstom qui vient d'être signé pour délivrer un certain nombre de métro-trains à Melbourne, je crois, hier, donc 3 jours ou 4 jours après cette crise des sous-marins. Donc vous voyez, pour l'instant, on a ces deux messages qui sont très forts. À la fois, on rentre pas encore dans le détail des discussions sur les aspects très industriels et très concrets de pourquoi ce contrat aurait pu ou en tout cas n'a pas abouti, qu'est-ce qui s'est vraiment passé du point de vue industriel. Mais à la fois, on veut aussi rassurer d'une certaine façon que les collaborations entre entreprises françaises et entreprises australiennes, pour l'instant, elles vont continuer dans d'autres domaines tout va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que je suis un petit peu sur ma faim d'attendre un petit peu d'insight de ces versions industrielles et de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé et à quel moment les choses n'ont pas été alignées entre Australiens et Français sur cette question du programme des sous-marins.
Et si on regarde un peu vers l'avenir, on en a parlé déjà, il y a l'accord de libre-échange européen, il y a aussi tout ce qui est autour de l'OTAN. Est-ce qu'on peut penser que la France peut vraiment taper du poing et quitter l'OTAN pour une période donnée ou arrêter de s'impliquer dans l'OTAN? Parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'Australie, mais la France tape du poing aussi beaucoup, voire même beaucoup plus avec les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver et est-ce que ça peut mettre à mal toutes les discussions, même si on en a déjà un petit peu parlé, du contrat de libre-échange entre l'Australie et l'Europe, tout en sachant que dans les dernières heures, Biden a aussi dit à Boris Johnson que, en gros, entre guillemets, et je vais extrapoler, fallait pas mettre la charrue avant les bœufs et que le libre-échange entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'était pas forcément pour tout de suite. Ils allaient en parler un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait un peu du changement de balance de pouvoir ici, là?
Alors, je crois que c'est deux questions différentes, parce qu'il y en a une qui inclut en fait d'une certaine façon les États-Unis en premier plan et une autre où les États-Unis sont absents de la discussion. Sur la question de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, oui, je pense que ça va vraiment avoir des conséquences sur cet accord et sur ces négociations en cours. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu plus de 2 jours, je crois, pour que le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, lui-même dise que forcément ça va avoir un impact sur la négociation de cet accord et qu'on pourra pas faire comme si cette dénonciation de contrat n'existait pas. Et encore une fois, hein, Christophe, hein, pour le rappeler à nos auditeurs d'SBS, la France va prendre, hasard du calendrier, la présidence de l'Union européenne en janvier prochain. Et il y a plein de choses à ce moment-là, c'est-à-dire que la France sera aux commandes, d'une certaine façon, de l'Europe au moment où on va s'acheminer vers les derniers rounds de négociations sur cet accord de libre-échange. Donc ça va peser. Et puis Emmanuel Macron lui-même, candidat, devra quand même montrer qu'il a une vision de l'Europe et du respect qu'on doit à la France sur la scène européenne quelques mois avant son élection. Et donc j'imagine bien que il l'utilisera aussi de manière opportuniste cette dénonciation du contrat des sous-marins entre l'Australie et la France. Donc je crois que effectivement ça peut avoir de vraies conséquences sur cet accord-là. Juste encore sur cette question de l'accord, moi ce qui me frappe aussi, Christophe, c'est toujours quand même cette incapacité d'une certaine façon qui est montrée au monde de conclure à des accords avec l'Europe. Si on prend juste à la fois la question du Brexit et cette question des accords de libre-échange, on a quand même un Royaume-Uni qui quitte officiellement l'Union européenne et qui en 6 mois arrive, puisque ça s'est passé à Cornouailles, hein, ça a été les premières discussions ont lieu au sommet du G7 en juin dernier. On a l'Australie et le Royaume-Uni qui arrivent en 6 mois à avoir un accord de libre-échange et 2 mois après, on a ce rapprochement stratégique entre l'Australie et le Royaume-Uni. Donc ça montre quand même encore une fois que ça semble difficile et ça semble plus compliqué en tout cas pour des acteurs hors Europe de nouer des partenariats, de nouer des accords avec l'Europe que ça ne l'est de le faire avec d'autres acteurs qui maintenant sont indépendants, comme le Royaume-Uni vient de le faire avec l'Australie. Donc ça aussi, c'est quelque chose, à mon avis, où il va falloir se poser la question, c'est comment l'Europe peut-elle avoir un poids politique plus important, parler d'une seule fois et être plus efficace sur la scène internationale. Donc ça, c'est la question de l'accord de libre-échange. Sur la question de l'OTAN, alors, c'est difficile, hein, cette question. Je lis pas dans les boules de cristal savoir si la France va ou pas quitter l'OTAN. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on a eu un langage diplomatique qui était bien moins diplomatique, j'allais dire moins policier que d'habitude, avec, là, je mets du côté du ministre des Affaires étrangères et pas de l'ambassadeur ici, mais Jean-Yves Le Drian, qui a dénoncé, je le cite là, un mensonge, une duplicité, une rupture majeure de confiance, un mépris de la part des alliés de la France par rapport à cette rupture du contrat. Et puis il a dit, hein, aussi, et ça c'est à noter sur cette question de l'OTAN, que ça pèserait forcément sur la définition du nouveau concept stratégique de l'OTAN. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que de là, ça veut dire que ben la France va mettre moins de billes, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas être moins active dans cette organisation de l'OTAN? Est-ce que ça veut dire qu'elle va en sortir? C'est très compliqué, je pense que personne n'a la réponse là, mais en tout cas, de la même manière que ça va avoir un impact sur l'accord de libre-échange vis-à-vis de l'allié australien, cette question-là, cette crise-là va aussi avoir un impact sur la question de la participation et de l'implication de la France au sein de l'OTAN. Et puis on va voir aussi, maintenant on attend aussi un petit peu quand même les réactions américaines, qui, un peu comme les réactions australiennes, Christophe, pour l'instant elles sont très mesurées, elles sont très pragmatiques, et on a l'impression quand même de s'opposer un peu à un mur, hein. C'est-à-dire qu'il y a la France qui tape du poing sur la table, il y a l'Union européenne qui tape du poing sur la table, et puis pour l'instant, bon, bah, l'Australie et les États-Unis ont l'air de recevoir les coups et puis de pas tellement réagir, et c'est plutôt ça qui m'inquiète, Christophe, parce que in fine ça reste des alliés dans un monde incertain, dans un monde multilatéral, et donc il va falloir composer, quoi que la France en pense, et quelle que soit la manière dont elle a été touchée dans son estime, dans son ego, devoir composer avec à la fois les Australiens et les Américains dans les prochaines années.
Affaire à suivre. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Et voilà, c'était donc Nathanaël Bloch et Christophe Mallet pour nous présenter cette deuxième partie du magazine Europa Voice. Et à présent, on va passer à l'Océanarium de Maurice qui a été lancé récemment et c'est le premier dans cette partie de l'océan Indien. Mais avant de parler de cet Océanarium, un morceau avec Charles Aznavour, Allez le vrai Marseille.
Et j'ai joui dans tes bras.
Odysseo s'est installé au sud de la zone portuaire, un lieu d'un calme étonnant malgré sa proximité de la capitale et le mouvement des navires. Cette animation vient du public. À la sortie de l'Océanarium, Mike et Sharon, venus en famille, ont vécu chacun une expérience propre.
On avait l'habitude de voir des aquariums à l'étranger, mais de voir ça ici à Maurice, très surpris.
Moi, ce que je retiens, c'est que ce projet, c'est de conscientiser les Mauriciens sur les espèces qui existent dans l'océan Indien et la nécessité pour nous, les humains, d'arrêter de polluer et de protéger nos océans.
Les promoteurs ont voulu, en effet, un projet commercial au service d'une cause, d'où le parcours qui est proposé aux visiteurs, explique Shakti Teker, assistante à la direction éducative d'Odysseo.
On commence lentement, on cherche à ce que les gens soient curieux, cherchent à se poser la question sur les différentes espèces qu'ils rencontrent, avant justement d'évoluer au cours d'un voyage. On part les lagons, on découvre la côte, on découvre l'intérieur du pays aussi. Et ensuite, on s'immerge pleinement dans cet océan Indien.
Un océan dont une infime partie de ses merveilles a été reconstituée. L'Océanarium est grand comme deux terrains de foot. Il rassemble pour l'heure 3500 espèces marines réparties dans une cinquantaine de bassins. L'investisseur mauricien, le groupe Ecclesia, a fait appel à un partenaire spécialisé, la société française Clear Reef International. Le chantier a démarré il y a 4 ans. Malgré la pandémie et la paralysie de l'industrie du tourisme, les promoteurs n'ont pas changé leur plan. Au contraire, répond le directeur général d'Odysseo, Stéphane Robert.
On a redoublé d'efforts pendant la pandémie et surtout les confinements, c'était vraiment pas simple. Mais on était pressé d'ouvrir. On était pressé de partager avec le public les merveilles du monde marin.
En attendant, le public mauricien a répondu présent. 14 000 visiteurs en moins de 2 semaines. Sonali, une jeune employée de banque, n'oubliera pas cette rencontre dans le tunnel qui offre aux visiteurs une immersion dans le Grand Bleu.
Déjà, j'ai découvert que les requins sont énormes, en fait. On a appris quand ils sont nourris aussi pendant la journée. C'est 1 kilo par jour pour les requins.
Le parcours du visiteur a été conçu dans un esprit de préservation de la faune et de la flore aquatique. Un voyage d'un écosystème à l'autre dans cette partie de l'océan Indien.
Et avec ce morceau de Jean-Jacques Goldman, Je te donne, on arrive à la fin de cette édition. Merci de votre compagnie. Prochaine édition, c'est jeudi à la même heure, entre 13 et 14 heures, sur la radio SBS. Bon après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.